Bienvenue à Nérac. Ici, le pays d'Aloré se vit en lettres capitales. Je serai votre guide tout au long de cette épopée historique, mais jamais ennuyeuse. Car on ne s'ennuie jamais à mes côtés. Qui suis-je, vous demandez-vous? Eh bien, sans me vanter, certainement l'un des hôtes les plus prestigieux de cette cité. Henri IV lui-même. Pour vous servir, enfin, à titre exceptionnel. Mais je vous reparlerai de ma personne un peu plus tard. Alors, effectivement, Nérac est riche d'un passé prestigieux, si prestigieux qu'on en a fait la capitale du pays d'Albret. Et ça ne date pas d'hier. Le site naturel de Nérac, au bord de la rivière la Baïse, était déjà occupé à l'époque préhistorique et ensuite par nos ancêtres gallo-romains. Un choix logique. L'eau était un facteur essentiel tant pour les transports, la navigation, le commerce que pour les commodités. Nérac vous invite donc à voyager dans le temps, entre vestiges antiques, fastes médiévaux et renaissance éternelle. Commençons notre visite avec un édifice qui a déjà dû vous interpeller. Le château. Situé au bord de la rue qui porte mon nom, Henri IV, cela devrait déjà vous fournir un indice essentiel au sujet de son ou ses illustres locataires. Et oui, si je suis bien né à Pau, j'ai vécu une partie de ma vie ici, à Nérac. Ce n'est pas moi qui ai fait édifier ce château, mais les seigneurs d'Albret, dont je suis le descendant. À l'origine, la maison d'Albret est une famille de petite noblesse qui n'était pas prédestinée à quitter l'abri, une petite bourgade landaise. C'est en jouant le jeu des alliances matrimoniales et stratégiques entre la France et l'Angleterre qu'ils se hisseront jusqu'au trône. Ah ! Si mes arrière-grands-parents avaient su qu'il y aurait un roi dans la famille. Concrètement, au XIe siècle, les moines de l'abbaye de Condom, dans le Gers, firent don aux Albret de la terre de Nérac en échange de leur protection. Et voilà comment les sires d'Albret devinrent seigneurs de Nérac. Le château, tel que vous pouvez le voir aujourd'hui, a été bâti entre le XIVe siècle et le XVIe siècle. La structure architecturale est médiévale, mais la galerie subsistante témoigne de l'élégance des décors Renaissance. C'est un peu en partie grâce à moi, d'ailleurs. Le plan de l'édifice était quadrangulaire, c'est-à-dire semblable à un carré, ou un rectangle avec quatre angles. Quand le château s'élevait autrefois, on pouvait distinguer six tours de guet. Ces tours avaient bien sûr pour but de défendre la construction et ses habitants, et offrait une vue imprenable sur les alentours. Le château était entouré de douves, larges et profondes, pour assurer son rôle de forteresse militaire et repousser les assaillants, mais aussi impressionner voleurs et mécréants. Dans la cour, deux tours d'escalier desservaient les étages. Malheureusement, après mon départ du château au XVIIe siècle, celui-ci sera abandonné pendant un temps, puis en grande partie détruit pendant la Révolution. Imaginez! Comme son entrée devait être impressionnante, comme les trois ailes détruites devaient lui offrir de l'espace et de la sécurité. Le logis seigneurial qui subsiste aujourd'hui témoigne à lui seul des fastes passés, car le château de Nérac connut bien des destins. Vers 1530, sous le règne de Marguerite d'Angoulême, sœur de Françoise Ier, Nérac devient une capitale de l'esprit, un foyer culturel et spirituel. C'était ma grand-mère. Et sa fille, Jeanne d'Albret, en fera la capitale du protestantisme. Deux générations plus tard, c'est moi, Henri de Navarre, qui transformera Nérac en véritable capitale politique. J'y vivrai pendant 6 ans, dès l'été 1576. C'était le château de mon enfance. Je choisis Nérac pour des raisons géographiques et stratégiques. Intellectuels, écrivains, diplomates, chevaliers y trouveront un refuge. Nérac est alors synonyme d'un certain art de vivre. Dans une ambiance de fête, on profite des joies de la table, de la chasse, de musique et même de la comédie italienne. Mais c'est surtout mon épouse, Margot, qui constitue une cour fastueuse, profitant de nombreux divertissements. Tout cela n'est pas sans vous rappeler les fêtes futures organisées à Versailles, je présume. La cour de Navarre savait jouer les précurseurs. À vous maintenant d'avoir l'œil. Observez attentivement l'aile nord, la dernière survivante du château de Nérac. Vous voyez cette colonnade élégante et régulière? La façade est littéralement rythmée par 12 colonnes. Et pourtant, une anomalie s'y est glissée. Voyons, étudions d'abord la première colonne, puis la seconde, et la troisième, et la bonne. Oui, elle s'enroule dans l'autre sens. Doit-on y voir un clin d'œil à l'originalité des anciens propriétaires des lieux ? Continuons à présent notre parcours avec un autre monument riche d'anecdotes. La statue d'Henri IV. Pour parvenir à cette magnifique statue de bronze, vous avez dû passer devant l'hôtel de ville et le cours Roma, quartier typiquement commerçant de la ville de Nérac. Avez-vous senti un fumé alléchant, des parfums et des accents chaleureux ? Car Nérac est aussi une capitale des plaisirs de la table, cèpes, foie gras, melon. J'avoue avoir une préférence pour... Mais revenons à ma statue. Elle est l'œuvre de Raghi, sculpteur italien. Elle fut commandée en 1816 et dressée dans la cour du Louvre. Elle fut transférée en Nérac en 1823, sur la place du château par le baron Feutrier, alors préfet du Lot-et-Garonne. Armand Falière, maire de Nérac et futur président de la République, fit déplacer la statue à la fin du 19e siècle suite au délabrement du château. Elle quitta alors l'ancienne cour royale pour l'actuelle place Marcadieu. Je trouve ma représentation assez fidèle, conquérant mais avenant, triomphant mais jamais écrasant. Une personnalité qui m'a valu le surnom de « Bon Roi Henri » et une réputation joviale dans les livres d'histoire. Et cette légende a commencé dès ma naissance. Tout ça parce que j'ai été baptisé avec une gousse d'ail et une goutte de vin de Jurançon et que mon berceau était une carapace de tortue. On dirait que vous aimez peu l'originalité de nos jours. Je suis sûr que c'est mon côté séducteur qui agace. Il est vrai que mon deuxième sobriquet est Vergalant. La maison des conférences. Cet hôtel particulier date des 15e et 16e siècles et a été au centre des grandes discussions politiques. Cet édifice a en effet servi aux conférences de Nérac qui débutèrent durant l'hiver 1578. Leur but était de réconcilier catholiques et protestants, dans une France alors en proie aux guerres de religion. Cette maison des conférences reçut des personnages illustres, tels qu'Henri III, Marguerite de Valois, Catherine de Médicis et son escadron volant. L'escadron volant était, dit-on, composé des 300 plus belles jeunes filles du royaume, la plupart issues de la plus haute noblesse et dont les charmes étaient utilisés à des fins politiques et diplomatiques pour faciliter les négociations. Qu'en pensez-vous ? La maison des conférences en conserve en tout cas une grâce et une aura mystérieuse. Mais elle est surtout un exemple de l'introduction des décors de la Renaissance en Gascogne. Les façades sur la cour offrent trois niveaux de galeries et des encadrements de fenêtres à pilastres ornés de motifs géométriques et terminés par des chapiteaux à tête d'angelot et de mufles de lion. Une inspiration toute italienne, le pavillon d'escalier est un ajout de la fin du XVIe siècle. Le Pont Vieux. À cheval sur la Baïse. Le Pont Vieux, ou Pont Roman, nous permet de rejoindre la rive droite de Nérac. On prétend que les extrémités du Pont Vieux datent du XIVe siècle et qu'à l'origine, la partie centrale était un pont-levis en bois, abaissable ou relevable selon les besoins. Le pont complet de pierre, tel que nous le voyons à l'heure actuelle, date du XVIe siècle. Il nous offre une vue privilégiée sur la Baïse, de nouveau offerte aux navigateurs. Jusqu'au XIXe siècle, le petit port embarquait des balles de tabac, des bouchons de liège, des tonneaux de vin de Buzet ou de farine blanche en partance pour les îles. Aujourd'hui, c'est vous qui partirez à l'aventure de cette rivière aux nombreuses écluses. Sur les rives de la Baïse, de jolies balades vous attendent avec aussi des découvertes. L'ancien lavoir, très bien conservé, vous y attend. Le parc de la Garenne. Nous sommes à présent sur la rive droite de la Baïse. Ce parc a été aménagé par mon propre grand-père, Henri II d'Albret. Il est le plus ancien site classé de la région. Son premier tracé le faisait s'étendre du Petit Nérac à la fontaine Saint-Jean, que vous verrez plus loin. Il était originellement muré, mais la végétation s'y propageait librement, en faisant un terrain de chasse ou de découverte privilégié. Henri II d'Albret, mon aïeul, appréciait tant la faune et la flore qu'il fit bâtir sur la rive gauche de la Baïse un autre espace vert, les jardins du roi. D'une longueur de 800 mètres, ils étaient également clôturés par un mur. Pour en revenir à la Garenne, il y avait tout d'abord une place plantée de platanes au milieu de laquelle était aménagée la tortuguière du roi. En effet, mon grand-père s'était constitué un élevage de tortues. Décidément, la tortue est une affaire de famille. À côté, le pavillon des bains du roi. Selon la légende, les dames utilisaient ce petit bâtiment pour se déshabiller avant de plonger dans les eaux de la Baïse. Ce pavillon est composé de deux pièces, ayant chacune une cheminée pour se réchauffer après le bain, ainsi que deux fenêtres, une ouvrant sur la rivière, l'autre sur le château. Deux jolies vues pour clore un moment agréable. Un peu plus bas, existe toujours le palais de Marianne Lespée qui n'était qu'un abri de jardin. Un lieu de repos où se retrouvaient Henri II d'Albret et sa maîtresse Marianne Lespée. Tout près de ce petit palais, qui n'en était pas vraiment un, se trouvait la maison du jardinier où naquit et habita Fleurette. Fleurette, j'étais sûr que vous évoqueriez le sujet. Elle était la fille du jardinier et des bruits courent sur une amourette entre nous. Je vais vous la conter. J'avais 19 ans et je n'étais encore qu'un prince. Elle en avait 17 et était totalement éprise de ma personne. Je lui donnais alors un rendez-vous nocturne dans la garenne. Malheureusement, ayant l'esprit encombré de mille autres choses, j'oubliais ma promesse. Il est vrai que peu de temps après, je devais partir épouser la sœur du roi de France, Marguerite de Valois, dite Margot. Et voilà comment, depuis, on me reproche d'avoir poussé la belle Fleurette à la noyade. Désespérée, elle se serait jetée dans les eaux de la rivière. Je peux vous assurer qu'en réalité, ce sont ses larmes qu'elle alla noyer. Elle eut même une famille et des enfants. Mais de ce malentendu naquirent la légende et les termes conté Fleurette et flirté. Tous les amoureux peuvent ainsi rendre hommage à Fleurette par l'intermédiaire de sa statue. Elle représente Fleurette noyée et fut réalisée au XIXe siècle en marbre blanc par le sculpteur Daniel Campagne. Ce dernier était un artiste local, originaire d'un village proche de Marmande. Regardez comment la jeune fille se reflète dans le bassin de la fontaine Saint-Jean. Quelle pureté ! Le parc de la Garenne est décidément hanté par de nombreux esprits féminins. La reine Margot, mon épouse, adorait s'y promener. Si bien qu'elle finit par le trouver trop court. À partir de cette fontaine, elle le fit prolonger de 3000 pas. C'est pourquoi on entend parler aujourd'hui des 3000 pas de la reine Margot, qui n'est autre que le prolongement de la promenade. La fontaine Saint-Jean. La fontaine Saint-Jean a été ainsi nommée pour faire référence au chevalier de Saint-Jean de Jérusalem qui possédait un château templier dans le bourg de Nazareth. On distingue encore trois têtes de lion en relief par les bouches desquelles jaillit l'eau de la fontaine. Cette fontaine date du XVe siècle et je la fis restaurer en 1578. La fontaine des Marguerites. Encore une empreinte féminine. Cette fontaine est dédiée aux trois plus célèbres Marguerites. Marguerite de Navarre et d'Angoulême, sœur de François Ier et reine de Navarre, Marguerite de Valois, dite Margot, et Marguerite de France, fille de François Ier et de Claude de France. La fontaine du Dauphin. Cette fontaine fut élevée plus tardivement, en 1602, en l'honneur du fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, née en 1601. Ce fils, d'abord appelé François, devait plus tard devenir Louis XIII, roi de France. Elle date du XVIIe siècle, mais la plaque actuelle n'est qu'un fac-similé. J'espère avoir fait naître en vous, si ce n'est une vocation de souverain, une curiosité et l'envie de revenir dans cette belle cité de Nérac, où je vécus des heures mémorables. De nombreux sites voisins vous accueilleront à bras ouverts. L'Office du tourisme vous les conseillera. À bientôt, bonnes gens.